Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie. Pour ce nouvel épisode de l'Affranchi Podcast, nous recevons Pauline Armange à l'occasion de la parution de son ouvrage « Avorté, une histoire intime de l'IVG ». C'est parti. Bienvenue Pauline.
Merci.
Donc on est ensemble aujourd'hui pour la sortie de ton livre tant attendu, « Avorté, une histoire intime de l'IVG » aux éditions Daronne, que nous avons eu le plaisir déjà de recevoir la semaine dernière avec Marie Da Silva. Donc ça fait une sorte de petit focus pour le mois de mars sur une maison d'édition. C'est plutôt chouette et je pense qu'ils reviendront bientôt aussi. Donc aujourd'hui, c'est la sortie de ce livre qui, parmi ton trio, puisque tu as trois livres qui sont parus ces dernières années, c'est quand même... Alors, on s'était dit, lors de ta dernière venue, on se retrouve en septembre. Bon, il s'avère qu'on se retrouve au mois de mars. Ce qu'on peut dire sur cette sortie aujourd'hui, c'est qu'elle est assez différente en fait de tes deux précédents écrits, puisque avec Moi les hommes je les déteste, on était sur quelque chose d'assez spontané, d'une prise. On avait l'impression vraiment que tu prenais ton stylo et que tu donnais en fait comme ça ce texte à lire, à partager, à méditer, à réagir aussi. Avec Aux endroits brisés, on était dans un roman, quelque chose de plus long, une histoire que tu avais. Pensées différentes qui entraient en fait dans d'autres codes d'écriture de fiction. Et aujourd'hui, avec Avorté, c'est exactement ça, ton sous-titre, une histoire intime de l'IVG. Tu nous projettes en fait dans un style d'écriture qui est assez peu commun, moi j'ai trouvé. Pour autant, je trouve que je lis beaucoup, pour le coup, je peux quand même le dire. Et j'ai été vraiment séduite en fait par cet endroit. Et comme tu le dis assez vite dans ton intro, je crois, où tu es dans un endroit qui veut mêler ton expérience personnelle à de la réflexion et de ne pas tomber dans l'idée du journal intime. Et ça, j'aimerais bien qu'on en discute toutes les deux. Est-ce que tu as pensé la forme de ce livre avant de t'y jeter dans l'écriture, ou est-ce que c'est venu dans la façon dont tu t'es attelée à la tâche ? J'imagine que ça n'a pas dû être facile.
Non, c'était très dur. En fait, j'avais commencé par écrire un truc très brut et très, très journal intime finalement. Et plus le temps passait et faisait son œuvre, plus j'étais en accord avec ça. Je trouvais que c'était que ça avait sûrement du besoin de sortir à un moment donné pour moi. Mais ma question c'est toujours est-ce que c'est intéressant pour d'autres personnes ? Sinon autant le garder pour moi. Et donc j'ai beaucoup retravaillé la structure du texte et en même temps que j'écrivais, pour arriver à quelque chose qui soit plus grand que ma propre expérience, qui au final est un point de départ intéressant, mais n'est pas représentative et n'a pas vocation à l'être forcément. Et c'était aussi hyper intéressant de travailler pour avoir un récit qui parle de, qui part de moi, mais qui me dépasse, j'espère.
Oui, c'est ça, on a beaucoup, et vraiment en te lisant, on a ça en rengaine, l'intime et politique, et toi-même, tu utilises ces deux mots, côte à côte ou pas, et d'aller chercher en fait cette parole politique, c'est pas anodin en fait qu'il y ait ces réflexions maintenant, parce qu'on a plusieurs années en fait de publications, de témoignages, d'articles qui vont en ce sens, mais de là, j'ai l'impression en fait qu'en te lisant, on avait une sorte de technique d'écriture, d'un endroit d'écriture où on comprend ce qu'est l'intime et politique, de comment, de ton histoire personnelle, tu arrives à raccrocher le collectif et de surtout pourquoi c'est important d'aller vers là. Mais très rapidement, en fait, j'ai eu l'habitude de lire des ouvrages qui faisaient d'abord la part personnelle, je vous raconte mon histoire, et dans un deuxième chapitre, on rejoint en fait le politique. Et là, non, dès le départ, tu arrives vraiment de manière très fine, en fait, à ce que tout se rejoigne petit à petit, sans être non plus dans l'exposé. Sans être un tel ou une telle a dit ça, je suis d'accord, moi j'ai ressenti ça, nanana. Non, il y a quelque chose de très très fluide. Et tu viens de le dire, t'as dû retravailler. Je peux pas m'empêcher de penser qu'il y a eu peut-être aussi une sorte de première version brute, mais qui avait besoin de l'être, en fait, de sortir ces mots de toi, en fait, de les poser sur le papier et de dire bon, mais maintenant je peux m'y réatteler. Parce que peut-être que la violence première est sortie de moi.
Oui, carrément. Et en fait, ce qui m'a intéressée, une fois ce premier jet très brut sorti, c'était d'identifier que, en fait, ce que je ressentais au moment de l'écriture, c'est-à-dire un an après mon avortement à peu près, c'était de la colère. Et moi, après avoir beaucoup travaillé sur la colère comme moteur politique, je me suis dit que ça venait me travailler à des endroits importants parce que pourquoi j'ai avorté et je ressens de la colère avec plein d'autres trucs, mais voilà. Et en fait, c'est cette question-là qui est venue alimenter mes recherches. Et en fait, ce livre, c'est un peu ma curiosité à moi pour comprendre ça, ma thérapie, clairement, mais pas que. Comment, en fait, je pars de cette question, pourquoi je ressens cette colère, alors que pour moi, la colère, c'est un moteur. Et qu'est-ce que ça va me permettre de faire? Ça va me permettre de creuser sur ce sujet auquel j'avais finalement pas vraiment réfléchi, même si je pensais que. Et en fait, de rattacher ça à la société dans laquelle on vit et comment on traite les femmes qui avortent, etc. Et aussi me sortir de la sensation d'être seule qui est extrêmement erronée.
Parce que là, en fait, ce dont on se rend compte assez vite, c'est que évidemment, il y a un avant-après, mais que dans ton engagement féministe, il y a un avant-après. Mmh. C'est-à-dire que cette épreuve te fait réaliser que l'endroit de colère que tu ressens, il est aussi contre ces mouvements féministes et de ce qui n'a pas été préparé, en fait. Et c'est vrai que, de mon expérience de lecture, je pense que grâce à toi, en fait, ça m'a aussi posé la question de, mais en fait, on a une connaissance, les combats, l'histoire, le droit à l'IVG, la contraception, mais en fait, c'est tout. Si on ne l'a pas vécu, en fait, on passe pas du côté d'après de ce que ça veut dire vraiment, en fait, l'avortement. Mmh. Et cet endroit de réflexion que tu as eu sur tes engagements, si tu pouvais nous faire un petit résumé, qu'est-ce que tu connaissais, quel était, en fait, ton rapport à l'avortement avant d'avoir avorté? Ce petit moment de bascule, cet énorme, pardon, moment de bascule avant-après, tu le mettrais à quel niveau de ce fait?
Du coup, comme je le dis dans le livre, moi, je me considérais comme féministe bien avant de tomber enceinte. Et en fait, du coup, bah forcément, je suis pour le droit à l'avortement. Je considère que c'est une victoire de haute lutte et en même temps un sujet qui n'est jamais fini d'être traité, qui est toujours remis en question, etc. Mais en fait, moi, je l'avais vraiment conceptualisé que, bah, en fait, comme ça, comme un concept abstrait. C'est aussi parce que mon engagement féministe, il était ailleurs que sur les luttes de justice reproductive à l'époque, et que du coup, au moment où je tombe enceinte et que je cherche du soutien en ligne, parce qu'à l'époque, c'était là-dessus que je me... comme ça que je voulais... enfin, que je marchais, bref. Du coup, je tombe que sur le contre-pied du discours anti-avortement, qui est toujours « l'avortement, ça a ruiné ma vie, ma famille me déteste et je suis bannie ». Et en fait, il y a l'autre côté, qui est le discours féministe qui s'entend totalement, qui est « j'ai avorté et je vais bien, merci ». Et en fait, moi, tout mon travail, ça a été de comprendre... En fait, moi, j'étais en colère de ça, parce que ça représentait pas du tout ce que j'avais vécu. Je me disais, bah, moi, j'ai avorté, je suis féministe, je vais pas bien, donc pas merci du tout. Et je me sentais un peu fautive de ressentir ça. Je me disais, en fait, je suis en train de trahir la cause, de desservir la cause, en n'étant pas... alors que je pensais vraiment que j'allais être complètement sereine par rapport à ça, parce qu'en fait, je m'étais construite comme quelqu'un qui considère que l'avortement, c'est... hyper important, et je le pense toujours. Hein. Et en fait, tout mon travail aussi pour moi, ça a été de comprendre pourquoi ce discours « j'ai avorté, je vais dire merci », il est hyper important pour normaliser dans la société cet acte médical qui devrait pas être stigmatisé comme il l'est encore aujourd'hui, et le fait que ce soit toujours le discours qu'on doit porter en premier, ça prouve qu'on est encore soumis à ce regard de jugement et qu'on peut l'être à chaque étape de l'avortement. Et qu'en fait, il existe aussi une place pour dire « je vais bien, mais ça peut prendre un peu de temps. Si je devais le refaire, je le referais pas. » Enfin, en fait, qu'il peut y avoir plein de nuances et que ça invalide pas du tout en fait, cette lutte-là qui est que la société accepte l'avortement comme quelque chose de normal et de nécessaire. Et ça, pour moi, c'est assez différent du ressenti personnel qu'on peut avoir parce que je pense que ce qui peut colorer l'expérience de l'avortement, c'est pas le fait d'avoir avorté, c'est en fait tout ce qui se passe autour. Comment on va être encadré, comment on va être accompagné, comment on va être suivi après, etc., qui va rendre cette expérience plus ou moins marquante en fonction de qui on est, en fait. Et ça, c'est très individuel. Et je pense que ça a sa place aussi, quoi.
Oui, c'est ça. Et ça vient rejoindre, en fait, quand on y pense, tout ce qui concerne en fait la médecine des femmes, il y a cette invisibilité, cette silenciation, ce truc où, en fait, jusqu'à un certain point, on s'est battu, on a réussi à faire avancer les choses. Et pour autant, après, il y a une sorte de vide total d'accompagnement, ou alors c'est très très privé-privé, c'est-à-dire que c'est les sœurs, les mères, les cousines, les meilleures amies, mais que ça ne dépasse pas en fait ce cadre hyper proche. Et je pense aussi notamment à l'expérience de la fausse couche, au postpartum qui a été bien révélé ces derniers temps, mais qui pendant très longtemps a été complètement invisibilisé. Et alors, je ne sais pas si c'est indélicat de ma part de raccrocher l'avortement à ces thématiques-là, mais en tout cas moi, c'est l'effet que ça me fait. Je me dis, mais en fait, dès que c'est plus compliqué, dès que c'est pas une naissance joyeuse, qu'on fait, les ballons de couleur et tout est parfait, ben en fait, on ne veut pas en parler. Mmh. Et cet endroit-là, je peux pas m'empêcher de penser que c'est pas anodin qu'on ne mette en avant que les grossesses parfaites, on va dire que cette image complètement rose bonbon de la maternité, et que on cache en fait complètement tout le reste. Il y a quelque chose dans l'action du patriarcat là-dedans dont tu parles dans ton livre qui questionne énormément, mais qui n'est pas très simple à résumer. C'est-à-dire qu'on pourrait penser, bah oui, c'est parce que c'est un modèle patriotique, il faut que les femmes fassent des enfants, construisent une famille, nanana, donc très patriarcal. Mais en même temps, faudrait pas faire de la publicité sur le fait que ça peut moins se passer, qu'elle pourrait avoir le choix, en effet, l'avortement, etc. Enfin, tu vois, j'arrive pas à être radicale dans mon avis sur le lien entre ces expériences douloureuses et le patriarcat. J'ai l'impression qu'il y a de la nuance. Et en même temps, il y a un truc qui cloche, en fait, dans la façon. Enfin, c'est pas que les femmes qui n'en parlent pas, c'est qu'on nous a longtemps en fait empêchés d'en parler, en faisant de ça quelque chose de la maison.
Oui, quelque chose de l'ordre du vraiment du très très intime, mais en même temps quelque chose de. En fait, moi, je considère que ça relève aussi du fait que on n'a pas le droit à la complexité, à la nuance, au vécu ambigu. Que c'est très compliqué de. Même encore aujourd'hui, de dire je suis enceinte et j'aime pas ça, j'ai un enfant, je l'adore, mais en réalité c'est super dur, j'ai avorté, je le regrette pas du tout, mais en même temps, j'ai pleuré pendant 3 mois, enfin voilà. Et en fait, pour moi, ça participe de ce truc de les femmes doivent rentrer dans une case qui est, les femmes et les personnes qui expérimentent ces vécus-là, doivent rentrer dans une case qui est très étroite et qui est... celle où en fait on va le moins les entendre, parce qu'en fait une femme qui accouche et qui vit le rêve de la maternité parfaite, ben du coup elle va faire chier personne. Et nous, quand on vient apporter de l'ambiguïté, et du coup qu'on demande aussi qu'on nous écoute et qu'on fasse attention à nous aussi, et ben en fait on est renvoyé à pourquoi tu te plains, tu l'as bien voulu, dans les deux cas en fait. Moi, je fais vraiment ce parallèle là aussi de t'as voulu ton gosse, maintenant tu te tais, et puis en fait t'as voulu avorter, maintenant tu te tais aussi. Et je pense que c'est vraiment le dégoût du vécu féminin dans ce qu'il a de plus réel. On n'a pas vraiment le droit d'être des vraies personnes en fait. Bof.
Ouais. Non, mais clairement c'est un endroit qui politiquement est hyper intéressant en fait. Pourquoi est-ce que cet endroit difficile, parfois crade, parfois trash, parfois hard, enfin on est sur des expériences de vie qui sont très très dures, et la société ne laisse pas en fait la place pour les vivre collectivement, ce qui permettrait peut-être de très vite être dans un système d'accompagnement, d'écoute, de soutien beaucoup plus ample que la petite sphère privée qui parfois n'est, comme tu le disais, pas du tout réactive, et au contraire même dans la violence également. Et que, on dit toujours qu'il faut un village pour faire une mère, il faut un village pour éduquer un enfant. Ben, en fait, il faut un village pour réconforter une femme qui a avorté, en fait. Et ça, c'est tout quelque chose qui est peut-être d'autant plus réel dans nos sociétés occidentales, où le lien, en fait, à la médecine des femmes, au corps, on nous a coupé, en fait, notre rapport au corps. Et ça, c'est un endroit que tu répètes aussi. Où t'as eu l'impression, en fait, d'avoir ta tête d'un côté et d'avoir ton corps de l'autre, et ce, depuis toujours, quasiment, suivant tes différences d'expérience, ton vécu, mais je me suis retrouvée aussi dans cette idée-là de, en fait, j'ai l'impression qu'on passe nos vies à considérer nos corps comme autre chose que nous-mêmes, parce que on nous a pas appris à ce qu'on soit qu'une, en fait, parce qu'on doit le travailler, on doit faire du régime, on doit s'habiller, s'apprêter pour un regard autre, pour et ça, à force, en fait, ça crée une distance qui est de plus en plus difficile à raccorder. Et on sent bien, en fait, que ton projet personnel, c'est de revenir, en fait, mettre tout le monde en alignement. Ça va être vaste, mais en même temps, j'ai une vraie curiosité sur ça. Est-ce que tu penses que c'est à force, en fait, de réfléchir à des thématiques comme ça difficiles, de se confronter, en fait, à des choses qu'on ne voudrait pas, dont on ne voudrait pas aller plus loin, etc. Est-ce que tu penses que c'est cet endroit-là qui va permettre de réaligner? Parce que là, ce que t'as fait en faisant ce livre, c'est ça, c'est de ré-emboîter les deux, en fait, de se dire, enfin, tu vois, ma tête, c'est pas que... Enfin, je sais que je peux survivre dans ma tête, mais mon corps, j'en ai besoin aussi, quoi.
Ouais, je sais pas si c'est la solution universelle, mais c'est peut-être le grand avant-après de mon expérience de l'avortement, c'est de réaliser qu'il n'y a pas deux entités séparées. Et pendant que j'étais en train d'écrire, il y a une autrice... Céline Pontonnier, qui avait écrit sur Instagram que elle trouvait ça trop bizarre quand les gens disaient j'aime mon corps, j'apprends à aimer mon corps, parce qu'en fait, mon corps c'est moi. Et en fait, si je dis j'aime pas mon corps, ça veut dire je m'aime pas moi. Et ça m'avait vraiment hyper frappée. Et moi, je me suis bien rendu compte que penser que me connaissant, c'est-à-dire étant une personne extrêmement émotive et qui a tendance à vivre les choses à fond, penser que mon avortement allait me passer comme une lettre à la poste et que j'allais vraiment. En sortir tranquille, c'était complètement illusoire, parce que ça m'a vraiment traversé physiquement, quoi. Et je pense que maintenant, en tout cas, je suis beaucoup plus à l'aise avec ce que je traverse physiquement dans mon corps, parce que j'ai dû retricoter ça, et en tant que femme qui subit plein d'injonctions et qui rentre pas dans les cases et qui... Une partie de ma déconnexion, c'est aussi parce que j'ai jamais fait l'effort, entre guillemets, de me conformer à plein d'injonctions, style le maquillage, l'épilation, etc. Et donc, du coup, ce corps féminin, à quoi sert-il, finalement? Et en fait, quand je tombe enceinte, je suis genre, oula, en fait, je me suis vachement rappelée à ma biologie, et je suis là, c'est un peu super bizarre comme truc, j'avais pas... Et je pense que... Enfin, j'espère qu'il faut pas vivre un truc qui, moi, m'a fait beaucoup de mal pour reconnecter les deux, mais que c'est quand même assez important, parce que au final, je pense qu'on se fait plein de mal à trop séparer... je sais pas pour qui je me prends avec cette déclaration.
Mais oui.
Mais ouais, que...
Je te rejoins.
Voilà. Enfin, moi, en tout cas, je suis mieux maintenant, donc c'est cool. Ouais.
Mais non, mais c'est... Enfin, je pense que, évidemment, il faut pas souhaiter à chacune de vivre un traumatisme pour se reconnecter, mais c'est grâce, en fait, au fait que la parole soit partagée et qu'on puisse, en fait... Enfin, moi, j'ai pas besoin de vivre un avortement pour comprendre... Alors, je dirais pas dans ma chair, parce que ce serait beaucoup trop exagéré, mais de comprendre, en fait, par rapport à d'autres choses que moi, j'ai pu vivre, le lien que ça peut créer dans ce côté complètement bigou de l'expérience. Mais c'est quand même assez perturbant, en fait, de se dire que en tant que femme, on soit obligé quand même de re-questionner notre rapport au monde par ce corps. C'est génial qu'on y arrive, ça peut prendre énormément de temps. Enfin, moi, j'ai l'impression que ma génération, par exemple, c'est beaucoup... Enfin, voilà, c'est quand on a eu 30 ans, quoi, il y a une sorte de... c'est peut-être pas OK, peut-être qu'on a besoin de se poser des questions. Mais heureusement, c'est pas... Voilà, c'est au moins arrivé à un moment donné. Mais ce qu'on remarque, et ce dont tu parles aussi, évidemment, dans ton livre, c'est la non-inquiétude, par contre, de l'homme en face. C'est-à-dire que puisque toi, c'est une expérience qui est marquée dans ton corps, dans ton intérieur, c'est organique, ben tu peux pas y échapper, en fait. Il y a quelque chose, même ce qui, tu le vis aussi bien que possible, ben, je le vis bien, je pense que ça ne peut pas exister, mais ou le plus mal que possible, enfin, quels que soient les extrêmes, tu le vis dans ta chair, en fait, c'est comme ça. Par contre, l'homme en face, tu parles d'une question de responsabilité, de se dire mais dans quelle société on est pour qu'en fait, la plupart du temps, ça n'intéresse pas les hommes. Ils ne se sentent pas concernés. Alors, c'est pas le cas pour toi, et ça fait du bien à lire aussi, mais tu te questionnes quand même sur cet endroit de mais en fait, où est-ce que ça a vrillé dans l'éducation, dans la transmission, pour que ce lien-là ne soit pas le premier lien, en fait, évident, quoi.
Je pense que où est-ce que ça a vrillé. Moi, je pense que ça a surtout jamais marché. Mais ma réflexion là-dessus, elle est assez ambivalente, comme tout ce bouquin, peut-être, je sais pas. dans le sens où, d'un côté, comment la charge que c'est de la contraception quand on est dans un couple hétéro, c'est la femme qui la porte, et tout ce qui va autour, enfin la plupart du temps, bien entendu. Voilà, les effets secondaires de la pilule, c'est sur une seule personne, et quand on oublie sa pilule, qui stresse, c'est la femme, et qui se fait engueuler, c'est la femme par son homme qui lui dit « t'as oublié ta pilule, mais t'as pas honte, quoi ». Et en fait, quand l'imprévu se réalise, bah en fait, le gars, lui, physiquement, ça lui fait rien du tout. C'est pas lui qui va vivre cette expérience-là. Et en même temps, où est la place pour les mecs que ça intéresse, qui sont peut-être pas nombreux, mais bon, il doit y en avoir, pour parler de ça quand ils traversent cette expérience avec leur partenaire, en les accompagnant, où ils sont aussi... Et là, j'ai vraiment pas la réponse, parce que quand j'étais en train d'écrire ce livre, il y avait Fabrice Florent qui voulait créer un podcast sur les hommes qui ont eu des partenaires qui ont avorté, et j'ai participé au tollé de « Oh mon Dieu, mais surtout pas !» Personne ne veut entendre Fabrice Florent et des autres hommes parler de machin. Et en même temps, après, je réfléchis et je me dis « Bah en fait, moi, mon expérience très personnelle, c'est que mon mari, bah en fait, il en a parlé parce que il a une psy, mais en fait, sinon, on en parle où ? À quel moment ? On fait en sorte que ce soit important pour tout le monde ?» Et ça, j'ai pas de réponse. Et en même temps, la réalité est que, pour moi, ça a été hyper important de pas me sentir abandonnée dans cette expérience-là. Toutes les recherches que j'ai faites prouvent que mon expérience est plutôt chanceuse, ce qui est assez nul à dire. Et je pense que, fondamentalement, ça fait partie aussi du problème de la cellule du couple, qui est vraiment minuscule et où, en fait, on laisse pas de place... Mais que ce soit du couple hétéro, que ce soit à la femme qui avorte ou de créer des connexions importantes autour qui vont me permettre aussi de créer des échanges et de discuter et de pas se sentir seule. Mais c'est un tout autre sujet, la solitude de l'homme blanc, qui me passionne aussi, mais autre chose.
Mais c'est vrai que, pour le coup, je rebondis sur solitude, c'est exactement ça, c'est que, en fait, ce qui est recherché dans ces histoires de femmes, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a ce côté-là, en fait, où on nous laisse aussi beaucoup entre nous pour nous débrouiller de ces histoires, mais en vrai, on n'est pas les seuls impliqués, puisque, enfin, pour tomber enceinte dans ce couple hétérosexuel, bah, il a fallu que l'homme soit présent, et de prendre l'habitude, en fait, de les impliquer. Alors, évidemment, ça, encore une fois, et je me souviens, on en a déjà parlé sur « Moi, les hommes, je les déteste », c'est encore une fois un petit peu leur prendre la main aussi. On a peut-être, sans aller, évidemment, dans un truc de responsabilité, etc., mais peut-être qu'on a tellement été apprise à garder les choses pour nous, la douleur des règles, les inconforts, les douleurs pendant la sexualité, que sais-je, il y a un milliard, en fait, de difficultés à être dans un corps biologiquement de femme. Et on nous a appris à les taire, ces difficultés-là. Et donc, on ne peut que souhaiter ça, en fait, que dans un couple hétérosexuel, il y ait cet endroit de vérité. Alors, demande à la femme d'être dans cette charge pédagogique, éducative, je ne sais rien, de transmission, mais qui pourrait peut-être permettre de distancier l'homme, en fait, qui, de fait, n'a pas eu cette expérience-là. Alors, peut-être, quand ce sont des frères au milieu, en fait, de plusieurs sœurs, ça, généralement, de ce que j'entends, il y a un petit peu plus de... Enfin, ils sont au courant de plus de choses. Mais sinon, en effet, si personne ne leur dit, bah, ils ne peuvent pas se rendre compte, en fait. Enfin, ils devraient, mais en fait, on n'est pas dans cette société-là.
Non, c'est clair. Et oui, je pense qu'on ne peut qu'espérer que les gens en couple, sous quelque forme que ce soit, puissent autant partager les trucs chouettes que les trucs moins chouettes dans la sincérité et le respect de l'autre. Mais pour moi, ce n'est pas tant de la pédagogie que de... Enfin, tu vois... La pédagogie envers les hommes n'est vraiment pas mon activité préférée. C'est juste de à un moment donné, moi, je dis ce qui me traverse, et si ça fait chier le gars en face, il peut s'en aller, c'est pas un problème. Après, il peut aussi se prendre par la main, essayer de comprendre lui-même ce que ça vient réveiller chez lui, etc. Enfin, il est là aussi l'endroit de respect. Je pense pas qu'on ait à aller expliquer, je traverse ça parce que c'est, enfin, moi je le fais pour moi, et en fait, toujours les mecs peuvent se prendre par la main pour apprendre des trucs.
Ils peuvent oui, mais évidemment, voilà. Évidemment. Il y a suffisamment d'outils et de livres, de podcasts, il y a de quoi en fait se renseigner, évidemment.
Oui.
Il faut leur laisser cette ce mouvement là, mais malgré tout, en fait, je me dis que quand t'es dans ce couple hétérosexuel et que tu vois qu'il y a pas de réponse en face, il doit y avoir peut-être parfois cette envie de se faire peut-être frapper avec les livres sur la tête, voilà, de dire mais lis ça, enfin d'être un peu, on est non violente hein, ici, mais je veux dire d'avoir ce côté un peu genre mais vas-y quoi, mais pas de leur lire à leur place, ça c'est sûr. Un terme que t'as utilisé un peu plus tôt, c'est la honte. C'est un chapitre de ton livre et tu parles notamment d'Annie Ernaux. Bon, c'est toujours malgré tout chouette d'entendre parler de l'expérience de lecture d'Annie Ernaux et de ce moment où en fait tu pensais que la honte était son récit d'avortement et qui en fait est un événement qui a été adapté récemment au cinéma. Est-ce que pendant cette période que tu as vécue, tu es allée chercher dans la littérature? D'autres, parce que là, on entend Annie Ernaux, qui a cet endroit de littérature, encore une fois, assez singulier. Est-ce qu'il y a eu cette envie, en fait, d'aller chercher des histoires d'avortement, des... Puisque tu parlais d'Annie Ernaux, est-ce que ça fait partie, en fait, d'une sorte d'endroit de recherche de ta part, mais pour peut-être être dans un réconfort, hein, pas du tout dans quelque chose de l'expérience d'essayer de réfléchir à d'autres formes, de faire un dossier avec toutes les possibilités, enfin tu vois, pas dans un truc universitaire quoi, mais vraiment dans j'ai besoin de lire, d'entendre l'expérience que j'ai traversée.
En fait, au départ, j'ai surtout voulu recenser ce que moi je connaissais déjà avant de m'intéresser à la question et qui faisait partie du coup de ma culture à la fois féministe mais aussi littéraire, pop culture, série, etc. Parce que je me disais que ça va, j'ai un bagage qui me convient parfaitement et que si je trouvais pas tant de représentations de l'avortement que ça, c'est peut-être qu'il y en avait pas tant que ça. Mais j'avoue que je me suis un peu arrêtée là et que après je suis allée chercher des témoignages moi pour le coup. Dans le livre, je parle d'un bouquin édité, qui n'est plus édité, mais qui a été édité par La Ville Brûle, qui s'appelle « J'ai avorté, je vis bien, merci ». Et qui, pour le coup, est super, parce que ça reprend des témoignages depuis avant la légalisation de l'avortement jusqu'aux années 2010, avec ensuite une intervention de militants du planning familial. Et en fait, un mois après, j'ai eu besoin d'aller plutôt dans les témoignages que j'avais ratés au moment où j'en avais cherché, au moment de mon avortement, où en fait, j'avais une mémoire très sélective de ce qui m'avait horrifié et de ce qui m'avait pas fait du bien. Et en fait, il y a évidemment plein d'autres témoignages qui existent. Et en fait, je me suis surtout dit que les représentations de l'avortement, en fait, elles sont très récentes et c'est pas celles qui m'ont construite, moi, en grandissant. Et elles sont venues après, elles sont venues soigner plein de trucs et me faire prendre conscience de plein de trucs. Mais elles m'ont pas permis, au moment où j'ai avorté, de réaliser que c'était arrivé à d'autres personnes que moi. Ah bon? À part Annie Ernaux, que j'avais pas lu à ce moment-là, mais dont je savais que le texte existait. Voilà.
Mais c'est vrai que ce rapport aux histoires, aux œuvres, c'est quelque chose, je dirais pas qui est récent, mais j'ai l'impression qu'avec le mouvement MeToo, le partage des paroles, etc., on a peut-être plus ce réflexe-là, en fait, de s'entourer de témoignages. Et c'est exactement, en fait, ce que tu développes dans ce paragraphe La Honte. C'est peut-être cet endroit-là, en fait, où on a le plus besoin du collectif et de cette impression d'être unique, mais parmi plein d'autres. En fait, de se raccrocher à une histoire, collective, quoi, tout simplement.
Oui, je pense que, enfin, du coup, c'est vraiment ce qui m'a aidée, et c'est parce que j'ai voulu écrire ce livre que ça m'a aidée. Je pense que sinon, je serais un peu restée dans mon coin. C'est en fait d'aller chercher des gens qui... À un moment donné, j'ai dit, bon, voilà, j'ai avorté. Et il y a des gens qui m'ont fait, en fait, moi aussi. Mmh. Et c'est des gens que je connaissais parfois depuis plein d'années. Ça, c'est pas une phrase, ça n'existe pas. Depuis longtemps. Et en fait, d'aller contre mon mouvement premier qui était de pas trop aller confronter mon vécu pour aller voir s'il était plus ou moins légitime, si leur avortement était pire que le mien. Donc en fait, elle souffrait pas et moi encore. Alors pourquoi? Enfin, mais plutôt d'être dans le partage d'expérience. Et en fait, le fait est que je pense pas que j'ai eu la chance, je pense que quand on parle de choses intimes et douloureuses, c'est le plus souvent avec bienveillance, surtout entre personnes qui sont constamment silenciées sur certains sujets. Et en fait, moi, c'est ça qui m'a sorti de ma honte, qui n'était pas une honte d'avoir avorté, mais qui était une honte de l'avoir mal vécu pendant longtemps. Et je sais plus où j'allais avec cette phrase. Mais en fait, de découvrir, mais hyper naïvement, hein, que en fait, si une femme sur trois avorte, bah forcément, j'en connais plein. Et moi, ça m'a vraiment choquée, enfin perturbée, de pas les avoir connues avant, alors que moi-même, j'ai mis hyper longtemps, à part à mon cercle très très proche, de dire que j'étais en train de traverser ça, que c'était compliqué, etc. Et du coup, sortir de cette solitude-là, ça m'a demandé de me mettre un peu en vulnérabilité. Et au final, c'est aussi ce qui m'a permis de sortir de plein de trucs négatifs. Donc c'était super.
Évidemment, là, c'est un livre. Donc il y a quelque chose... parfois, enfin, dans l'écrit, j'ai l'impression qu'on peut être dans un système de clôture. En tout cas, je l'ai souvent entendu. Quelque chose de... On s'arrache, en fait, les mots, on se dit et on les couche sur le papier et c'est parti. Là, bon, c'est un livre. On sait et on devine qu'il va être beaucoup lu. On se souhaite qu'il soit énormément acheté. Et aux éditions Daron également. Mais est-ce que tu n'as pas eu... parce qu'on sait que tu es fort contacté dans les réseaux sociaux. Enfin, ton expérience d'énorme succès avec Moi, les hommes, je les déteste rend public, en fait, d'une certaine manière. Est-ce que tu as réfléchi, en fait, à ce que ça allait provoquer chez les autres femmes la lecture de ton livre et si tu n'allais pas juste avoir 1000 messages de « moi aussi, j'ai vécu ça », qui sont très spontanément intéressants parce que bah, ça veut dire que ton livre ouvre, en fait, cette part-là. On est le premier jour de la sortie, donc je ne te demande pas si tu as eu 1 milliard de messages, mais est-ce que c'est un endroit que tu as réfléchi? Est-ce que tu t'es dit « ah, peut-être que on va avoir envie de me confier de ce fait des expériences » ?
Pas dans cette... Je réalise que le temps passe que j'écris des bouquins et je me dis « personne ne les lira », ce qui est vraiment une stratégie... Heureusement que tout le monde ne pense pas comme ça autour de moi. Mais en fait, ce livre-là, je l'ai un peu comme Moi les hommes, en fait, j'ai parlé à des personnes proches de moi et qui ont avorté. Je les ai un peu mises dans le livre et je me suis dit que j'aimerais bien que elles, ça leur fasse du bien. Et en fait, par extension, que ça puisse faire du bien à des personnes qui ont avorté et qui ont eu du mal à poser des mots sur certains trucs. Après, il se trouve que je reçois des messages, pas 3 milliards, mais de gens qui me disent « ça fait écho à moi, ça remis... » Et en fait, oui, c'est pour ça que je l'ai écrit aussi. C'est pour que si j'écris pour que ça me dépasse moi et que ça touche d'autres personnes malgré la singularité de mon expérience personnelle, bah c'est comme ça que j'estime que j'ai réussi mon pari entre guillemets. Mais je suis et en plus, enfin je sais que pour certaines personnes c'est un peu compliqué de recevoir des témoignages de moi aussi parce que ça peut réactiver plein de trucs, etc. Pour moi, en fait, ça y est, mon truc est clôturé, donc c'est bon. Et du coup, je peux recevoir ça avec trop de gratitude qu'on me confie aussi. Super précieux comme échange. C'est aussi, j'ai bien conscience de ça, quoi.
Oui, oui. Après, c'est bien que tu aies senti ton process aussi et arrivé à une certaine fin. Et de te dire, maintenant, je suis capable, en fait, d'écouter, de lire. En tout cas, tu feras bien comme tu voudras. Mais, mais ça doit demander, en fait, dans ce cycle de réparation, un certain recul aussi. De se dire, bon, bah là, en fait, je suis dans mon histoire à un point où c'est OK d'en parler. C'est OK de faire une rencontre en librairie sur ce sujet-là. Parce que, enfin, je suis la première libraire à te recevoir. Bah, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais... Ça peut être hyper dur, en fait, de se replonger là-dedans. Et après, on sent bien que tu as pris le temps de revenir sur ton livre. Il y a des petites choses qui nous sont dites sur un présent que je laisse en surprise de la lecture du livre, mais qui nous permettent aussi de montrer que, ben voilà, ton livre, il a été processé, comme tu l'as dit plusieurs fois. Il y a eu un... Voilà. Et c'est bon de savoir que maintenant, tu peux en parler et que... Même si ça doit rester un endroit bien particulier de ton expérience, t'as fait le process, quoi. T'es un jour ça ne ferait aucun sens. Oui, bien sûr. Alors, pour l'enregistrement, nous avons une intervention, c'est la question du deuil.
Oui, complètement. D'ailleurs, j'en parle dans le livre. Le deuil de quoi ? Pour moi, ça a été le deuil de... genre ma vie fantasmée en mode la petite maison à la prairie, et de faire un peu la réalisation que cette image de la vie où en fait j'aurais eu un enfant à 24 ans et j'aurais eu un CDI, un labrador et un... Et en fait c'était pas la vie que je voulais, donc c'était pas plus mal. Et par rapport au process d'écriture, moi enfin ça me fait penser à ce que disait Nantené Traoré quand tu l'as reçu dernièrement, qui disait que si ça me fait encore pleurer quand j'écris, c'est que c'est pas bon à montrer. Et en fait c'est quelque chose auquel je m'identifie beaucoup, parce que moi j'ai été OK avec ce livre une fois que je l'ai relu et que je me suis dit bah, c'est bon, ça va, c'est la moi il y a deux ans, c'est toujours moi, mais ça me fait plus... moi, je pleurais pas, mais en tout cas, ça me donne plus envie de m'enterrer quelque part et d'attendre que le ciel me tombe sur la tête. Et ça a mis longtemps, mais c'est bon, ça y est, donc c'est cool.
Félicitations pour ça. Merci. En tout cas, c'est, voilà, c'est une chose qu'on peut pas s'empêcher de ressentir, c'est courageux d'écrire un livre comme ça. C'est très bien fait. Et comme je te le disais en t'accueillant tout à l'heure, c'est mon préféré des trois. Je trouve que ouais, c'est un endroit d'écriture qui est assez, ouais, assez brillant, en fait. J'aimerais bien continuer sur cette vague-là d'écrit. Alors, je ne vais pas faire de pronostic sur la prochaine fois où je te recevrai. Parce que là, je sens que il vaut mieux laisser le gros suspense. Mais je te remercie pour ce beau moment. Merci, Pauline. Alors, heureuse ? Vous venez d'écouter un nouvel épisode de l'Affranchie Podcast en compagnie de Pauline Armange à l'occasion de la parution de son ouvrage « Avorté, une histoire intime de l'IVG » aux éditions Daronne. L'Affranchie Podcast, c'est Soizic Courbet à la réalisation et Camille Cario à la post-production et au montage. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes avec l'Affranchie Podcast.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.